Aristote, Rhétorique, livre 1, chapitre 2. Définition de la rhétorique, la vraisemblance, le signe, l'exemple. 1. La rhétorique est la faculté de considérer pour chaque question ce qui peut être propre à persuader. Ceci n'est le fait d'aucun autre art, car chacun des autres arts instruit et impose la croyance en ce qui concerne son objet. Par exemple, la médecine, en ce qui concerne la santé et la maladie. La géométrie, en ce qui concerne les conditions diverses des grandeurs. L'arithmétique, en ce qui touche au nombre. Et ainsi, de tous les autres arts et de toutes les autres sciences. La rhétorique semble, sur la question donnée, pouvoir considérer en quelque sorte ce qui est propre à persuader. Voilà ce qui nous fait dire qu'elle n'a pas de règles applicables à un genre d'objet déterminé. 2. Parmi les preuves, les unes sont indépendantes de l'art, les autres en dépendent. Les premières sont toutes celles qui ne sont pas fournies par notre propre fonds, mais préexistent à notre action. Telles sont les témoins, la torture, les conventions écrites et les autres éléments de même nature. Les preuves dépendantes de l'art, c'est tout ce qu'il nous est possible de réunir au moyen de la méthode et par nous-mêmes. Nous avons donc en fait de preuves à tirer parti des premières et à trouver les secondes. 3. Les preuves inhérentes au discours sont de trois sortes. Les unes résident dans le caractère moral de l'orateur, d'autres dans la disposition de l'auditoire, d'autres enfin dans le discours lui-même lorsqu'il est démonstratif ou qu'il paraît l'être. 4. C'est le caractère moral de l'orateur qui amène la persuasion, quand le discours est tourné de telle façon que l'orateur inspire la confiance. Nous nous en rapportons plus volontiers et plus promptement aux hommes de bien sur toutes les questions en général, mais d'une manière absolue, dans les affaires embrouillées ou prêtant à l'équivoque. Il faut d'ailleurs que ce résultat soit obtenu par la force du discours, et non pas seulement par une prévention favorable à l'orateur. Il n'est pas exact de dire, comme le font quelques-uns de ceux qui ont traité de la rhétorique, que la probité de l'orateur ne contribue en rien à produire la persuasion. Mais c'est au contraire au caractère moral que le discours emprunte, je dirais presque, sa plus grande force de persuasion. 5. C'est la disposition des auditeurs quand leurs passions sont excitées par le discours. Nous portons autant de jugements différents, selon que nous anime un sentiment de tristesse ou de joie, d'amitié ou de haine. C'est le seul point, nous l'avons dit, que s'efforce de traiter ceux qui écrivent aujourd'hui sur la rhétorique. Nous entrerons dans le détail à cet égard lorsque nous parlerons des passions. 6. Enfin, c'est par le discours lui-même que l'on persuade lorsque nous démontrons la vérité, ou, ce qui paraît tel, d'après des faits probants, produit un à un. 7. Comme les preuves sont obtenues par ces trois sortes de moyens, il est manifeste que l'emploi de ces moyens est à la disposition de celui qui est en état de former des syllogismes, de considérer ce qui se rapporte aux mœurs et à la vertu, et en troisième lieu, de connaître les passions de façon à saisir la nature et la qualité de chacune d'elles, ainsi que son caractère et les conditions de son origine. Il s'ensuit que la rhétorique est comme une branche de la dialectique et de l'étude morale qui mérite la dénomination de politique. Voilà pourquoi la rhétorique revêt la forme de la politique et qu'en font autant ceux qui s'en arrogent la pratique, soit par ignorance, soit par vanité, soit pour d'autres motifs humains. La rhétorique, nous l'avons dit en commençant, est une partie de la dialectique et lui ressemble. Ni l'une ni l'autre n'implique en soi la connaissance de quelques points déterminés, mais toutes deux comportent des ressources pour procurer des raisons. Ainsi donc, quant à leur puissance et à la corrélation qui existe entre elles, on en a parlé d'une façon à peu près suffisante. 8. Les moyens de démonstration réels ou apparentes sont ici, comme dans la dialectique, l'induction, le syllogisme réel et le syllogisme apparent. En effet, l'exemple est une induction et l'antimème est un syllogisme. J'appelle antimème un syllogisme oratoire et exemple une induction oratoire. Tout le monde fait la preuve d'une assertion en avançant soit des exemples, soit des antimèmes. Et il n'y a rien en dehors de là. Aussi, comme il est absolument nécessaire que l'on ait recours soit au syllogisme, soit à l'induction pour faire une démonstration concernant un fait ou une personne, alternative que nous avons reconnue dans les analytiques, il s'ensuit que chacun de ces deux moyens, dans la rhétorique, est identique à chacun des moyens correspondants de la dialectique. 9. La différence de l'exemple avec l'antimème, on l'a montré dans les topiques. Nous y avons expliqué que, lorsqu'on appuyait la démonstration de tels faits sur des cas multiples et semblables, il y avait induction. Ici, il y a exemple. Lorsque certains faits existant réellement, quelque autre fait se produit dans un rapport quelconque avec ces faits, en raison de l'universalité ou de la généralité de ces faits, il y avait alors ce que nous avons appelé syllogisme, et il y a ici ce que nous appelons antimème. 10. Il est évident que la rhétorique dispose de cette double ressource, et comme nous l'avons dit dans les méthodiques, elle en use de la même façon, car les morceaux oratoires sont les uns remplis d'exemples et les autres remplis d'antimèmes. Et de même, parmi les orateurs, les uns emploient de préférence l'exemple et les autres l'antimème. Les discours où domine l'exemple ne sont pas moins persuasifs, mais ceux où domine l'antimème ébranlent davantage l'auditeur. 11. Quant à la raison d'être de ces arguments et à leur mode d'emploi, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, il nous suffit d'en donner une définition exacte. Ce qui est propre à persuader est propre à persuader certains auditeurs. Tantôt la persuasion et la conviction se produisent directement par elles-mêmes. Tantôt, elles s'obtiennent par une démonstration dû à des arguments persuasifs ou convaincants. Aucun art n'envisage un cas individuel. Ainsi, la médecine ne recherche pas quel traitement convient à Socrate ou à Callias, mais bien à tel individu ou à tels individus pris en général et se trouvant dans tel ou tel état de santé. C'est là le propre de l'art, tandis que le cas individuel est indéterminé et échappe à la méthode scientifique. La rhétorique ne considérera pas non plus ce qui est vraisemblable dans un cas individuel, par exemple pour Socrate ou Hippias, mais ce qui le sera pour des individus se trouvant dans telle ou telle condition. Il en est de même de la dialectique. Lorsque celle-ci fait des syllogismes, elle ne les appuie pas sur les premiers faits qui se présentent, car certains apparaissent même à des gens dénués de sens, mais sur des arguments rationnels. De même, la rhétorique s'appuie sur des faits que l'on a l'habitude de mettre en délibération. 12. L'action de la rhétorique s'exerce sur des questions de nature à être discutées et qui ne comportent pas une solution technique. Et cela, en présence d'un auditoire composé de telle sorte que les idées d'ensemble lui échappent et qu'il ne peut suivre des raisonnements tirés de loin. Or, nous délibérons sur des questions qui comportent deux solutions diverses, car personne ne délibère sur des faits qui ne peuvent avoir été, être ou devoir être autrement qu'ils ne sont présentés, auquel cas il n'y a rien à faire qu'à reconnaître qu'ils sont ainsi. 13. Il y a lieu, au contraire, de former des syllogismes ou des conclusions, soit d'après des arguments réduits antérieurement en syllogismes, soit par des propositions non réduites en syllogismes, mais qui ont besoin de l'être en raison de leur caractère improbable. Il arrive nécessairement que parmi ces dernières, l'une n'est pas facile à suivre en raison de son long développement, on suppose le cas où le juge est d'un esprit simple, et que les autres ne sont pas persuasives, comme n'étant pas puisées dans des faits reconnus ou probables. Il est donc nécessaire que l'on ait recours à l'antimème et à l'exemple, dans les questions susceptibles de solutions multiples et diverses, à l'exemple comme induction et à l'antimème comme syllogisme, composé de termes peu nombreux et souvent moins nombreux que ceux qui constituent le syllogisme. En effet, si quelqu'un de ces termes est connu, il ne faut pas l'énoncer, l'auditeur lui-même le supplée. Si, par exemple, on veut faire entendre que Dorieus a vaincu dans un concours avec couronne, il suffit de dire qu'il a gagné le prix aux Jeux olympiques et il n'est pas nécessaire d'ajouter que les Jeux olympiques sont un concours avec couronne, car tout le monde le sait. 14. Il y a peu de propositions nécessaires parmi celles qui servent à former les syllogismes oratoires. Un grand nombre des faits sur lesquels portent les jugements et les observations pouvant avoir leur contraire. C'est sur des faits que l'on délibère et que l'on discute. Or, les faits ont tous ce caractère et aucun acte, pour ainsi dire, n'a lieu nécessairement. Le plus souvent, il y a lieu et il est possible de raisonner d'après des faits opposés, tandis que les conséquences nécessaires ne procèdent que d'antécédents nécessaires aussi, comme nous l'avons montré dans les analytiques. Il résulte évidemment de là que, parmi les arguments appelés antimèmes, les uns seront nécessaires et les autres, le plus grand nombre, simplement ordinaires. En effet, ce que nous appelons antimème se tire soit des vraisemblances, soit des signes, de sorte que, nécessairement, chacune des premières est identique à chacun des seconds. 15. Le vraisemblable est ce qui se produit d'ordinaire, non pas absolument parlant, comme le définissent quelques-uns, mais ce qui est vis-à-vis des choses contingentes, dans le même rapport que le général est au particulier. 16. Quant au signe, l'un se comporte comme concluant du particulier au général, l'autre comme concluant du général au particulier. Le signe nécessaire, c'est la preuve. Quant au signe non nécessaire, il n'y a pas de dénomination distinctive. 17. J'appelle nécessaire les signes dont se tire un syllogisme. C'est pourquoi, parmi les signes, la preuve a cette propriété. Lorsqu'on pense que l'énoncé ne peut en être réfuté, on prétend apporter une preuve en tant que démontrée et finale. 18. De plus, parmi les signes, l'un, avons-nous dit, va du particulier au général. Voici dans quel sens. Par exemple, si on disait qu'il y a un signe, que les sages sont justes, dans ce fait que Socrate était à la fois sage et juste. Cela est bien un signe, mais un signe réfutable, lors même que l'énoncé serait vrai, car l'on ne peut en tirer un syllogisme. Mais si l'on disait « le signe qu'un tel est malade, c'est qu'il a la fièvre. Le signe qu'une telle a accouché, c'est qu'elle a du lait. » Il y aurait là une conséquence nécessaire, ce qui est la seule preuve des signes. Car la condition pour qu'un signe soit irréfutable, c'est d'être vrai. Voyons maintenant le signe qui va du général au particulier. Si l'on disait par exemple « un tel a la fièvre, car sa respiration est précipitée », ce serait réfutable, lors même que le fait énoncé serait vrai, car il peut arriver que l'on soit oppressé sans avoir la fièvre. Ainsi donc, nous venons de dire en quoi consiste la vraisemblance, le signe et la preuve matérielle, ainsi que leurs différences. Mais dans les analytiques, nous nous sommes expliqués en plus grand détail sur ces points et sur la raison de ce fait que telles propositions ne peuvent entrer dans un syllogisme et que telles autres le peuvent. 19. Quant à l'exemple, on a dit plus haut que c'est une induction et montré dans quel sens il faut l'entendre. Ce n'est pas dans le rapport de la partie au tout, ni du tout à la partie, ni du tout au tout, mais dans le rapport de la partie à la partie et du semblable au semblable. Lorsque sont donnés deux termes de même nature, mais que l'un est plus connu que l'autre, il y a exemple. Ainsi, pour montrer que Denis conspirait en vue du pouvoir tyrannique lorsqu'il demandait une garde, on allègue que Pisistrate, lui aussi, visant à la tyrannie, demanda une garde, et que, après l'avoir obtenue, il devint tyran. De même, Théagène à Mégare, et d'autres encore, non moins connus, deviennent tous des exemples de ce qu'est Denis, que l'on ne connaît pas encore, dans la question de savoir s'il a cette même visée en faisant la même demande. Mais tout cela tend à cette conclusion générale que celui qui conspire en vue de la tyrannie demande une garde. Nous avons expliqué de quels éléments se forment les preuves démonstratives. 20. Maintenant, il existe une très grande différence entre les antimèmes, différence qui a totalement échappé à presque tous les rhéteurs et qui se rencontre pareillement dans la méthode dialectique entre les syllogismes. Les uns concernent la rhétorique, comme aussi la méthode dialectique des syllogismes. Les autres concernent d'autres arts et d'autres facultés. Les uns existant actuellement, les autres encore inconnus et non décrits. Aussi, sans que les auditeurs puissent s'en apercevoir, il y a des orateurs qui s'attachent plus particulièrement et outre mesure à des antimèmes étrangers à la rhétorique. On entendra mieux ce que nous voulons dire quand nous l'aurons développé. 21. J'appelle syllogismes oratoires et dialectiques ceux sur lesquels nous faisons des lieux. Ceux-ci sont d'une manière générale relatifs aux questions de droit, de physique, de politique et à diverses autres questions spéciales. Tel est le lieu sur le plus ou le moins, car on ne pourra pas moins en tirer un syllogisme qu'énoncer un antimème sur les questions soit juridiques, soit physiques ou sur n'importe quel sujet. Et, cependant, toutes ces questions diffèrent par l'espèce. Mais les antimèmes particuliers sont tous ceux que l'on tire de propositions propres à chaque genre et à chaque espèce. Par exemple, il existe, sur la physique, des propositions qui ne fournissent ni antinomie ni syllogisme pour la morale. Et sur la morale, d'autres propositions qui n'en fourniront pas sur la physique. Il en est de même pour toutes les questions. Parmi ces antinomies, les uns ne rendront habiles en aucun genre, vu qu'ils ne concernent aucun sujet particulier. Quant aux autres, les antinomies ni oratoires ni dialectiques, meilleures seront les propositions que l'on aura choisies, et plus, sans que les autres s'en aperçoivent, on traitera d'une science autre que la dialectique et la rhétorique. Car, si l'on rencontre des principes, ce ne sera plus de la dialectique ni de la rhétorique, mais bien la science dont on possède les principes. 22. La plupart des antinomies se rapportent à des espèces particulières et individuelles. Ceux qui proviennent des lieux communs sont en plus petit nombre. Aussi, à l'exemple de ce qui s'est fait dans les topiques, il faut ici distinguer parmi les antinomies les espèces et les lieux qui les fournissent. Or, j'appelle espèces les propositions prises pour chaque genre particulier, et lieux ce qui est commun à tous indistinctement. Parlons d'abord des espèces et abordons les genres de la rhétorique. Voyons comment les diviser et les dénombrer. Puis, considérons séparément, pour chacun d'eux, les éléments et les propositions qui s'y rattachent.